Mesdames et messieurs, ce soir nous accueillons messieurs Edmond Perret, président du consistoire, et René Hubert, pasteur respectivement des paroisses de la Jonction et des Acacias à Genève. Ils représentent au sein de l'Église nationale protestante, sur le plan doctrinal, une tendance conservatrice, et pourtant, ils sont actuellement à la tête d'un mouvement qui tente à promouvoir un renouveau spirituel au sein de l'Église. Face à une véritable déchristianisation qui, dans tous les milieux, se manifeste, par exemple, par un abandon généralisé des temples et des églises, ces deux pasteurs ont entrepris, dans des circonstances qui ne sont pas semblables, de rendre au culte sa véritable signification. Il est un recueillement dans le cadre d'une communauté qui se veut militante. Il s'agit d'une expérience en cours qui suscite la curiosité et l'intérêt de nombreuses autres paroisses romandes. Ces deux pasteurs, auxquels l'Église bienveillante a octroyé quelques libertés, ont amorcé, dans leur secteur, habité en majeure partie par des ouvriers, une réforme du culte pour l'adapter aux exigences de la vie moderne. Respectueux de la vérité évangélique, fidèles aux textes bibliques, sans s'associer au rationalisme professé par certains ministres, messieurs Perret et Hubert vivent une expérience exaltante. Messieurs, vous aimez Calvin. J'aimerais ce soir que nous parlions du culte à la lumière de vos expériences et des écrits du grand réformateur français. Première question. Comment se déroulait le culte du temps de Calvin?
Eh bien, je crois qu'il faut d'abord se souvenir que lorsque Calvin est arrivé à Genève, la réformation y était déjà installée depuis quelque temps. Calvin a été appelé de façon extrêmement pressante par le réformateur Farel, qui lui demande de rester à Genève parce qu'il se rend compte que l'établissement de la réforme et son affermissement à Genève nécessitent un esprit organisateur et une pensée claire. Calvin réalise évidemment, malgré son jeune âge, un certain nombre des qualités que je viens d'énoncer, et Farel insiste pour qu'il reste, il reste. Et nous avons là un écrit, je voudrais vous le communiquer parce que je crois qu'il est assez symptomatique, qui nous donne l'impression, la première impression de Calvin lorsque, arrivant à Genève, il voit cette réformation toute jeune encore sortie de l'action de Farel et qu'il porte sur elle un jugement. « Quand je vins premièrement dans cette église, il n'y avait quasi comme rien. On prêchait et puis c'est tout. Il n'y avait aucune réformation, tout était tumulte. » On comprend dès lors que Calvin ait dû d'abord redresser des torts. Et la première action que Calvin met en place avec méthode, c'est une prédication régulière de l'Évangile en la cathédrale Saint-Pierre et aussi en l'auditoire de Calvin, qui porte aujourd'hui ce nom, bien sûr, parce qu'il y a vraiment travaillé d'une façon extraordinaire en donnant une lecture continue, une explication continue de l'Écriture sainte. Premier acte, donc, de la Réformation, mettre en place une prédication régulière dans les trois temples de la cité qui sont la Madeleine, Saint-Pierre et Saint-Gervais. Et dans ces trois temples, la prédication y est donnée par Calvin et par ses auxiliaires, par Calvin et ses collaborateurs, de façon extrêmement régulière. Le culte, au temps de Calvin, vous me posiez la question, comment se présente-t-il donc? Il se présente comme un service religieux en trois parties. Première partie, faite de psaumes qui étaient dits ou qui étaient chantés. Vous savez que dans la Bible, il y a 150 psaumes, et ces 150 psaumes, peu à peu, vont être traduits, vont être mis à la disposition de la population, vont être appris par la population, vont être imprimés, vont être diffusés, pour être la véritable collection de la prière de l'Église naissante. Il va s'ajouter à ces psaumes des oraisons publiques, c'est-à-dire des prières. Première partie donc, la prière de l'Église. Deuxième partie, une prédication qui va naturellement prendre une place extrêmement importante pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Il s'agissait d'instruire cette population qui, toute fraîche, sortait d'un catholicisme qui ne savait plus très bien l'Évangile et à qui il fallait rendre absolument dans toute sa grandeur, dans toute sa richesse, l'Évangile. Et Calvin va s'y employer avec une énergie extraordinaire. À quoi va s'ajouter la Sainte Cène? La célébration régulière, Calvin le voulait, de la Sainte Cène. En effet, dans les ordonnances de 1537, Calvin demande que la Sainte Cène soit donnée chaque dimanche aux fidèles. Pour des raisons historiques que je pourrais vous expliquer, en particulier parce que les Bernois ont eu dans cette affaire une influence que d'aucuns aujourd'hui regrettent d'ailleurs, la Sainte Cène ne va plus être célébrée à Genève que quatre fois l'an, alors que Calvin voulait qu'elle soit la fin normale de tout culte, c'est-à-dire l'acte communautaire par lequel le Christ étant réellement distribué, donné aux fidèles, les chrétiens allaient se sentir en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Ainsi, Calvin met-il tout l'accent sur, parce qu'il se trouve dans une situation polémique, met-il tout l'accent sur la nécessité que la réalité sacramentelle de la vie de l'Église soit équilibrée par une prédication qui explique le sacrement. Et Calvin le soulignera constamment dans son enseignement. J'ajoute enfin que Calvin a absolument voulu que le culte se déroule en langue vulgaire, et ça a été une des grandes affirmations qu'il a constamment soulignées elle aussi, de telle manière que le public de l'Église, le peuple de l'Église, n'assiste pas à des cérémonies ecclésiastiques auxquelles il ne comprenne rien, mais qu'au contraire, il puisse par la prédication elle-même comprendre les saints mystères que sont les sacrements. Enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au temps de Calvin, la prédication était donnée de façon très régulière dans les différentes églises de Genève, que le dimanche, dès le matin, au point du jour, à 4 heures du matin déjà, il y avait prédication à Saint-Pierre, qu'ensuite, à d'autres heures de la journée, elle était donnée à Saint-Gervais et à la Madeleine, qu'il y avait instruction religieuse des enfants dans les temples de Genève à midi, et qu'à 3 heures de l'après-midi, il y avait sermon dans la plupart des églises, dans les trois églises de Genève.
Monsieur Perret, j'aimerais que vous complétiez les explications de Monsieur Hibert en nous disant quels sont les 4 actes fondamentaux du culte.
Il y a tout d'abord le fait que le culte est un don de Dieu. On dit généralement qu'il s'agit d'un moyen de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que l'initiative de cet appel est en Dieu lui-même. L'Église n'est pas autre chose qu'une communauté de gens qui ont été appelés, des gens qui ont été convoqués, des gens qui ont été rassemblés, mais par Dieu lui-même. En effet, Calvin, dans un texte qui préfaçait ce qui sera plus tard la liturgie, disait ceci: « Notre Seigneur n'a pas institué l'ordre que nous devons tenir quand nous nous assemblons en son nom, seulement pour amuser le monde à voir et regarder. » Ce qu'il cherche avant tout, ce n'est donc pas une émotion religieuse, ce n'est pas une exaltation de l'âme, ce n'est même pas au premier chef une consolation, un encouragement, la satisfaction de ce qu'on appelle un besoin de l'âme. Ce qu'il cherche avant tout, c'est remettre le chrétien en face de Dieu, avec les autres chrétiens et également devant les hommes. Ainsi donc, premier principe, le culte est un moyen de grâce, un don de Dieu lui-même. Un élément fondamental, c'est le second, du culte, c'est le fait qu'il constitue un sacrifice. Ce terme peut étonner dans la bouche d'un réformé, et pourtant, il est essentiel. En effet, Calvin, après avoir insisté sur l'importance du sacrifice offert par le Christ, sacrifice offert une fois pour toutes, insiste également sur un autre aspect, qui est dans la réponse que le peuple de Dieu donne à ce sacrifice. Et il dit que, précisément, notre réponse est un sacrifice lui-même. Il reprend en cela une grande tradition de l'Église primitive. En effet, un auteur du début du IIe siècle disait déjà ceci: c'est le peuple tout entier qui sacrifie. Il sacrifie comment? Il sacrifie par le chant. Il sacrifie par la prière. Et le culte, c'est donc un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange, un sacrifice de prière qui va se prolonger dans toute la vie par le sacrifice de tous les jours. Le troisième élément du culte réformé, c'est qu'il constitue un dialogue. En effet, Calvin a cette expression: il s'agit d'entrer en propos avec Dieu. Si donc le culte, c'est le lieu d'une rencontre avec Dieu, il va forcément s'effectuer un dialogue. L'on va se parler les uns avec les autres, en quelque sorte, et parler tous ensemble avec Dieu. Et il s'agit aujourd'hui de prendre au sérieux cette affirmation. « Quand est des prières publiques, dit Calvin, il y en a deux espèces. Les unes se font par simple parole, les autres avec chant. Et ce n'est pas chose inventée depuis peu de temps, car dès la première origine de l'Église, cela a été. » Il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose au public pour sacrifier à une loi psychologique redécouverte dans notre temps moderne. Non, Il s'agit de manifester que des interpellés répondent. Et c'est pourquoi l'adoption de la langue commune, comme on l'a souligné tout à l'heure, a une très grande importance pour Calvin. On ne peut pas se parler si l'on n'utilise pas pour cela la langue de tous les jours. Et enfin, le quatrième élément essentiel du culte réformé, c'est qu'il est l'acte d'une communauté. Cette participation active de la communauté va forcément s'exprimer de manière différente selon les temps, selon les lieux, selon les caractères. Du temps de Calvin, bien sûr, il s'exprimait essentiellement par le chant. Plus tard, Osterwald, au XVIIIe siècle, a réclamé lui aussi cette participation active de la communauté, comme également Bercier. Il convient tout simplement de souligner que le terme même de liturgie signifie œuvre du peuple, œuvre de tout le peuple, expression du peuple priant, du peuple chantant, du peuple adorant son Seigneur.
Messieurs, est-ce que le culte protestant de nos jours diffère beaucoup du culte tel qu'il était pratiqué du temps de Calvin ?
Je ne pense pas qu'il diffère essentiellement du culte tel qu'il était pratiqué du temps de Calvin. En effet, dans le culte protestant actuel, nous soulignons toujours la nécessité de la prédication et cet équilibre qui doit s'établir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, entre la prédication d'une part et le sacrement de l'autre. Ce qui diffère peut-être, c'est que la lecture continue de l'Écriture sainte, telle que la faisait Calvin, pour instruire le peuple, parce qu'il considérait sans doute que la prédication est une pédagogie de groupe. Il avait en face de lui une population qu'il devait former à l'Évangile et dans laquelle il voulait faire descendre un certain nombre d'idées neuves qui correspondaient à un rattachement au Christ vivant et à la grande tradition de l'Église primitive. Et il avait par conséquent souligné ce fait que la prédication est une nécessité. Et nous prêchons peut-être d'une autre manière que ne le faisait Calvin en son époque.
Puis indépendamment même du fait qu'il y a prédication, il y a encore tout un autre élément que nous tirons du temps de Calvin, surtout lorsqu'il est revenu à Genève après avoir passé par Strasbourg. Il avait établi là-bas, effectivement, un ordre de culte qui est pratiquement celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Il y a donc, d'une manière générale, une certaine structure du culte que nous pouvons conserver, en l'adaptant peut-être, mais si, dans son fond, le culte n'a peut-être pas à être pratiqué d'une autre manière, les formes, elles, alors, peuvent être différentes pour exprimer la même chose dans des conditions complètement différentes.
Il faut rappeler que, finalement, Calvin n'a pas tellement innové sur le plan de la structure du culte. Quand on regarde le culte protestant actuel ou lorsqu'on regarde le culte réformé tel que Calvin l'a institué et qu'on essaye d'observer quelles sont les formes qui sont préparatoires au sacrement de la messe, par exemple, dans l'Église catholique, on remarque qu'il n'y a pas tellement de différence en ce qui concerne l'ordonnance des différents moments. Il y a un moment de louange, il y a un moment où le peuple chrétien entend la loi, un moment où le peuple chrétien confesse son péché, un moment où il entend la parole de la grâce qui est la parole libératrice. Et puis, un certain nombre d'indications lui sont données par la prédication de l'Évangile, après quoi il peut aller libérer vers le sacrement et qui va lui donner la présence du Christ et qui va surtout réunir les chrétiens autour du Christ vivant.
Vous tendez à rétablir la Sainte Cène tous les dimanches?
C'est une des tendances qui se manifestent dans l'Église protestante, bien sûr. Un certain nombre de pasteurs, un certain nombre de fidèles aussi, pensent que le culte est amputé d'un des éléments essentiels lorsqu'il n'est qu'une explication biblique et lorsqu'il n'est qu'un moment où des chrétiens prient ensemble, mais que le culte prend tout son sens lorsque des chrétiens, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, par le sacrement, sont assemblés les uns avec les autres dans la communauté du Christ vivant, offrent leur personne en sacrifice vivant, comme le dit l'apôtre, afin d'aller dans le monde et d'y témoigner de l'Évangile qui les a atteints, qui les a touchés, qui les a convertis, et qu'il voudrait apporter aux autres pour leur joie et leur paix.
Il est intéressant de noter, par exemple, que nous avons découvert, au cours d'une enquête sur la pratique du culte, que la manière habituelle de célébrer la Sainte Cène 3 ou 4 fois par an ne satisfait pratiquement plus personne. Elle ne satisfait plus les engagés, elle ne satisfait même pas ceux qui sont un peu à la périphérie de l'Église. On peut donc bien dire qu'il y a une redécouverte du sacrement. Quant à savoir si ce sacrement doit être offert tous les dimanches, c'est une autre question, et nous tendons plutôt à l'heure actuelle de l'offrir, disons, au culte habituel une fois par mois.
Tendez-vous à diminuer l'importance de la prédication?
Oh, mais pas du tout. Nous avons toujours dit, et je répète ce qui a été dit au début de cette émission, que pour nous, prédication et sacrement s'équilibrent simplement. La prédication est toujours aussi nécessaire. L'Église se trouve dans un monde où elle est mise en, question par la philosophie, elle est mise en question par toutes sortes de mouvements, et il importe que le message chrétien soit délivré de façon claire, de façon abrupte quelquefois, de façon à mettre en question justement les systèmes philosophiques dans lesquels nous développons notre action. Alors il est toujours nécessaire, et plus que jamais, que l'explication du message des apôtres, du message des prophètes, soit donné, du message de Jésus-Christ, soit donné avec simplicité à ce peuple, de telle manière que les réflexes non chrétiens que nous charrions tous les uns et les autres avec nous-mêmes dans le monde soient corrigés, repris par une prédication qui fasse apparaître en nous le Christ vivant, qui fasse apparaître en nous la mentalité du Christ, de telle manière que nous vivions du Christ et non pas seulement de nous-mêmes, quoi. C'est notre ministère de prêcher l'Évangile en vue de cela.
Il est peut-être intéressant de signaler ici une boutade de l'anglican Grégory Dix. Il dit, par exemple, que le catholique romain dit la messe. C'est peut-être une revanche des mots. Dans la messe, il y a une action. Or, on a besoin de dire quelque chose. La parole doit venir compléter l'action. D'un autre côté, souligne avec humour ce chanoine anglican, le protestant, lui, qui insiste sur l'élément de parole, fait sa prière, comme s'il y avait là une revanche de l'action. Il y a donc ces deux pôles constants qui sont l'action et la parole.
Est-ce que le fidèle Monsieur Hubert n'a pas plus besoin d'adoration que d'explication ?
Mais nous en convenons tout à fait. Le fidèle a besoin d'explication et il a aussi besoin d'adoration. Il n'a pas besoin plus de l'un que de l'autre. La vie chrétienne est une vie équilibrée. La vie chrétienne est une vie qui se déroule sur ces deux plans, précisément. Nous avons besoin de silence, nous avons besoin d'avoir un culte personnel, d'avoir une liaison personnelle avec notre Dieu. Mais nous avons aussi besoin d'entendre la parole de Dieu, nous être expliqués. Après quoi, nous avons besoin d'être ensemble, de nous sentir les coudes dans une communauté fraternelle, vraiment humaine, où nous nous sentions frères les uns des autres. Ensuite, nous avons le sentiment que le Christ ne nous instruit pas seulement par ceux qui nous prêchent, et qu'il n'est pas seulement celui qui entend nos prières. Un culte chrétien qui en resterait là serait un culte d'hypocrite. Le problème est ensuite d'aller au travail, d'avoir une action pratique. Car si le culte ne se prolonge pas, par une action qui montre que les chrétiens prennent en charge ce monde pour y faire prévaloir la charité de Jésus-Christ, l'espérance du Christ, et pour y vivre par conséquent leur foi dans des actes humains qui traduisent dans l'homme la présence du Christ, eh bien, je crois que notre culte n'a aucune espèce de valeur. Par conséquent, il ne faut pas toujours opposer liturgie d'un côté, adoration de l'autre, prédication enfin. Ce sont trois expressions à quoi il faut ajouter l'expression sacramentelle et qui expriment notre volonté de recevoir l'Évangile et qui expriment notre volonté de vivre Jésus-Christ de façon communautaire là où le Christ nous a placés.
À la suite de ce que vient de dire M. Hubert, que devons-nous retenir de la pensée de Calvin ?
Calvin, dans une petite ville, toute petite ville de 10 300 habitants, et avec un nombre restreint de collègues, une bonne douzaine, a enseigné le peuple de telle manière que les fidèles soient des fidèles non seulement adorant au culte, mais adorant dans toute la vie, agissant, imprégnant toute la réalité quotidienne d'un contact avec le Seigneur, d'un culte au fond de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est la recherche qui doit être la nôtre, comment traduire dans tous les jours ce que le Seigneur nous dit le dimanche, comment agir en conformité avec ce que Dieu nous transmet.